Verset 3, c'est ça le verset qui nous importe. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Verset 4, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes, il haït le méchant, et celui qui se plaît à la violence. Verset 6, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant sur le calice qu'ils ont en partage. Verset 7, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Voilà, je viens de lire 7 versets dans le livre des Psaumes au chapitre 11. Mais ce qui m'importe beaucoup plus, c'est le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Dans notre version, on a dit, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Amen. Nous sommes en train de parler de l'ordre. Amen. On avait dit que par là de l'ordre, on parlera de l'ordre de Dieu, ce que Dieu a établi depuis le commencement. Et puis, on parlera aussi de l'ordre du diable. On a, dans notre pensée, défini l'ordre comme étant des principes établis pour le bon fonctionnement. Et si nous pouvons nous pencher de l'autre côté pour mettre l'accent sur l'ordre du diable, le diable établit son ordre pour empêcher que la gloire que Dieu a établie a priori affecte son peuple. Raison pour laquelle on a vu, lorsque le Seigneur était né, les mages qui ont compris, ils ont vu l'étoile, ils sont venus pour adorer le Fils de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de faire une bonne action, une très bonne chose, le diable aussi était alerté. Et on voit Hérode établir des mauvais plans pour anéantir, pour détruire le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est impressionnant dans Matthieu chapitre 2, vous remarquerez, il y a quelque chose de très merveilleux où Dieu fait voir un songe à Joseph en lui disant de fuir avec l'enfant Jésus qui venait de naître en Égypte afin que la prophétie des prophètes puisse s'accomplir. Et ça peut paraître bizarre, ça peut paraître contradictoire, lui qui était le Fils de Dieu. On venait de l'adorer comme étant le Fils de Dieu. Et c'est très particulier lorsqu'on revient dans l'histoire des mages, ce qu'on avait vu la fois passée. Vous allez remarquer que les mages, sont venus, Matthieu chapitre 2, on va le voir, Matthieu chapitre 2, je vais lire le 13e verset. Le 14e verset et le 15e verset. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparir en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis à l'Égypte. Restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de lui le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Il dit, bébé, si tu peux nous mettre Osée au chapitre 11, le seul verset premier. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Amen. Ce qui s'est accompli au temps de Joseph, au temps de Marie, et lors de la naissance du Seigneur, cette fuite à l'Égypte était déjà une prophétie qui a été donnée par Osée.
Amen. Nous aurons ce soir comme sous-thème, quand les fondements sont renversés, qu'est ferait les justes. Je vais développer deux points, et puis on va rentrer dans nos maisons. Amen. Dans le livre des Psaumes, vous allez remarquer que David est en train de se lamenter par rapport à ce qui se passe. Dans le texte qu'on vient de lire dans le Psaume, au chapitre 11, David se lamente par rapport à ce qui se passe. Vous remarquerez que le chapitre 10, 11, 12, 13, 14 du livre des Psaumes a une tendance un peu où David est en train de se plaindre par rapport aux méchants, aux mauvaises personnes qui apparemment prospéraient. Mais lorsqu'on lit ces livres, on va remarquer que David, de l'autre côté, est en train de dire aussi ce que Dieu était capable de faire. David pose la question dans le troisième verset, Psaume chapitre 11, en disant, quand les fondements sont renversés, c'est quoi les fondements? Lorsque nous parlons des fondements, nous parlons de l'ordre. Lorsque l'ordre est renversé, lorsque l'ordre est perdu, que feraient les justes? Quelle est l'attitude que les gens doivent adopter? Et c'est quoi l'ordre que David est en train de parler? C'est quoi le fondement, pardon, que David est en train de parler? C'était l'ordre. En fait, ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui doit se faire. Et que les méchants ne méritent jamais la bonté de Dieu. Les méchants sont destinés à périr. Et David se pose des questions, pourquoi ces gens, on voit dans leur vie que les choses vont bien? Est-ce que ce n'est pas ta question? Est-ce que tu ne regardes pas les païens qui n'ont pas Dieu, qui ont quitté l'église, ou qui mènent leur vie d'une manière ou d'une autre? Apparemment, c'est comme s'ils ont des bonnes nouvelles. Et par là, David s'est dit, les fondements sont renversés. Parce qu'en réalité, c'était à nous les enfants de Dieu, d'expérimenter la main de Dieu, de voir la manifestation de la grandeur de ce Dieu puissant qui agit. Parce que Dieu agit. Dieu est celui, avant d'agir, il parle avant. Et tout ce qu'il parle ne reste jamais nul sans effet. Quand il parle, il accomplit ce qu'il dit. Mais vous savez, certaines choses sont exprimées au plus profond de nous lorsque les temps sont durs. Le psaume 11, c'est un psaume où on voit David dans un état d'observation, premièrement. Il est en train de regarder la situation d'autres personnes qui, apparemment, est en train d'aller en bonne et due forme. Et deuxièmement, David fait attention à son état. Souvenez-vous, les commentateurs ont dit que la plupart des psaumes de David ont été, en fait, plus de 60%, je dirais, 60% de ces psaumes ont été écrits, ont été chantés, parce que les psaumes sont des chants prophétiques, lorsque David n'était pas encore roi. C'est là où, regardant sa souffrance, regardant la manière dont il était en train de fuir Saül, qui cherchait à le tuer, les inspirations venaient. Cet homme, il chantait de la part de Dieu, il glorifiait Dieu dans ses chansons. Il annonçait les oracles de Dieu dans ses chansons. Lorsque vous regardez le psaume 126 au verset 1er, vous allez remarquer, ce que David exprime, c'est énorme, c'est extraordinaire. Il dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs par Sion, pardon, nous étions comme si nous faisions un rêve. Lorsque David parle de ces choses, Jésus n'était pas encore venu. Or, cette prophétie, en réalité, c'est une prophétie messianique. Qui ne parle pas de sa première venue, mais qui parle du temps de la fin. Lorsque Christ va revenir pour chercher son église, il y aura un temps qui passera pour que tout soit clôturé. Et ce message que David donne, parler de ces temps-là où Israël sera rassemblé à Sion, la cité de Dieu. David le voit plusieurs siècles en avant. Il les annonce. Dieu annonce des choses qui arriveront dans la suite des temps avant même que ces choses arrivent. Mais lorsque les fondements sont renversés, lorsque certaines règles ne sont plus respectées, lorsque l'ordre est détruit, qui ferait les justes? David se pose la question, il dit, lorsque les fondements sont renversés. Je remarque que les païens sont en train de prospérer. Et nous qui adorons le Seigneur, apparemment, environnés des ennemis. Parce que la Bible, quand il est en train de parler ainsi, il traversait le moment difficile. Cet homme, Dieu l'a appelé. Dans Ésaïe, chapitre 16, on l'a oué. Il a expérimenté des exploits. Il arrive des fois lorsque Dieu t'appelle. Il va te faire voir des choses qui vont réjouir ton cœur. Des choses qui vont te permettre à pouvoir croire que l'Éternel est réellement vivant. Que Dieu agit. Cet homme étant jeune, n'étant qu'un enfant, il se présente devant le roi, il dit, je tuerai Goliath. Goliath qui pouvait mesurer 3 mètres. Son manteau pesait 57 kilos. Quelle est la force que cet homme avait? David se présente devant de lui, il lui dit, toi tu combats contre moi avec la lance et les javelots, moi je combattrai contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quelle audace! Quelle confiance ce jeune homme avait en Dieu! Il avait reçu l'onction de la part de Dieu. L'onction étant la capacité d'accomplir, lui a permis de pouvoir terrasser les grands Goliath. Goliath donne l'image du diable. Goliath donne l'image des démons. Goliath donne l'image de l'ennemi. Goliath donne l'image de l'opposition. Goliath donne l'image de tout ce qui empêche les enfants de Dieu de pouvoir aller de l'avant. David, par la force de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, David les terrasse. Il prend une chose. Impressionné, le roi pose la question à Abner. Ésaïe 17, verset 55. De qui ce jeune homme est-il fils? Quand il voyait David en train de trembler, en train de venir, avec la tête de Goliath coupée. Il pose la question de qui ce jeune homme est-il fils? Parce que c'est impressionnant ce qu'il vient de faire. David était confiant. Vous savez, il y avait un pacte qui a été signé, si je peux dire ça comme ça, que celui qui tuerait Goliath méritait de devenir le gendre du roi. Premièrement. Et deuxièmement, sa famille devait être affranchie parce qu'Israël traversait une période où ils étaient réduits sous l'autorité du roi, comme des esclaves. 1 Samuel, au chapitre 8, la Bible parle de ces choses. Mais c'est David qui se retrouve deux fois en train de fuir. Jonathan, son ami qui a établi l'alliance avec lui, 1 Samuel chapitre 18. La Bible déclare lorsqu'il parlait avec Saül, le roi, à ce temps-là, Jonathan qui était son premier fils, qui logiquement devait hériter la royauté de son père lorsque son père serait absent. L'ordre de Dieu avait changé parce que son père avait désobéi. Jonathan a compris que c'est David qui devait devenir roi parce qu'un choix a été fait. Je crois bien que Jonathan, le fait de croire à ce que David devait devenir était aussi lié à la prophétie de Jacob sur le sceptre royal qui devait se reposer sur Juda. Genèse au chapitre 49. Mais il y a des choses, il y a certaines choses qui sont établies, qu'on peut appeler l'ordre ou des ordres établis. On ne peut pas s'en passer de ça. C'est comme ça ou rien. Jonathan respecte cela. Il venait donner des informations à son ami, même lorsque son propre père voulait faire du mal à David, lui donner des informations. Et dans cet environnement, David, entouré des ennemis, cet homme, il se présente devant de Dieu. Il implore la grâce de Dieu. Il chante les louanges de Dieu en exprimant ses inquiétudes, en exprimant ce qu'il ressent, partant de ce qu'il voit. Il dit, mais je vois les païens prospérer. Les flancs sont renversés. Les fondements sont renversés. Qu'est-ce que les justes feraient pendant que les fondements sont renversés? Que peut être notre attitude lorsque nous voyons certaines choses n'allaient pas bien dans nos vies? Pendant que quelque part nous regardons les païens, nous voyons qu'apparemment c'est comme si les choses prospèrent dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose que je dirais avant d'aller loin, la richesse ce n'est pas la prospérité. La prospérité, c'est l'expression de la parole de Dieu qui prend son emploi dans la vie des enfants de Dieu. Et on utilise le terme prospérité que lorsqu'on fait allusion aux enfants de Dieu. Toute richesse qui n'a rien à voir avec Dieu, bien que nous respectons que l'option qui dit que toute autorité vient de Dieu, toute richesse qui ne vient pas du Seigneur ou qui n'est pas fruit de la crainte de Dieu, de l'approbation de Dieu n'est pas la prospérité. La richesse en tant que telle, c'est tout ce que l'homme peut posséder au-delà du naturel. On peut appeler ça des richesses. Lorsqu'on parle de richesses, on parle de biens qui peuvent faire apparemment du bien à quelqu'un ou qui peut amener une personne à avoir une certaine notoriété dans sa communauté dialogante, parmi les gens qui les connaissent. Mais la richesse n'a rien à voir avec la prospérité. Mais dans la prospérité, il y a la richesse. Parce que la prospérité a un aspect spirituel avant que ça devienne palpable. Et la Bible déclare la bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie d'un chagrin. Lorsqu'on parle de la bénédiction, c'est là où on parle de la prospérité. C'est les résultats de la parole annoncée par Dieu dans la vie d'un homme. Et cette parole atteint son accomplissement parce que l'homme s'est mis sur les rails de Dieu. L'homme s'est mis dans l'ordre divin afin de pouvoir expérimenter la bénédiction ou la prospérité de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Si la richesse ou les richesses étaient la prospérité, les gens n'allaient pas mourir de la dépression pendant qu'ils ont des maisons, pendant qu'ils ont des richesses. Que feraient les justes lorsque l'homme est renversé? Peut-être ce soir, c'est ta question. Ça est aussi la question de David. Jérémie, dans Jérémie au chapitre 12, il déclare pourquoi les méchants prospèrent-ils? Mais je crois bien lorsque David est en train de chanter cette psaume, à part qu'il pouvait penser à Saül qui cherchait à le tuer, il pouvait aussi penser à la manière dont Saül gardait la royauté. Il était toujours roi. 1 Samuel chapitre 13, 1 Samuel chapitre 15, on parle du rejet de Dieu à son égard. Le roi a été rejeté à cause de la désobéissance. Lisons. 1 Samuel chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au 14e verset. Je me suis dit, le Philistin va descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Ok? Vous voyez la parenthèse? Vous voyez l'autorité que les prophètes avaient sur le roi? Il lui a dit, tu as agi en insensé. Amen. Il lui a dit, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sous Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Prenons maintenant 1 Samuel au chapitre 15. 1 Samuel au chapitre 15. Je vais commencer ma lecture à partir du 15e verset. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu l'aies exterminé. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris
sur les mitants, les brebis et le bœuf comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et le tiers-enfant, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Cet homme venait d'être roi, dans 1 Samuel au chapitre 10. Ça n'a pas traîné. Samuel lui avait dit, quand tu arriveras à Gilgal, en arrivant à Gilgal, il faudrait que tu attendes 7 jours. Et le 7e jour, moi, je vais arriver. Et j'offrirai les sacrifices. Pourquoi le roi ne devait pas offrir les sacrifices et que ça devait être Samuel qui devait les faire? Il y a un ordre que Dieu établit dans toutes choses. Je connais un homme dans 2 Samuel chapitre 6 qui s'appelait Uzza. On amenait l'arche de Dieu de là où c'était chez Abinadab jusqu'à l'amener à la cité de David. La Bible déclare en chemin, le bœuf faisait pencher l'arche. Et l'arche voulait tomber. Uzza voulait sauver l'arche qui voulait tomber. Dieu le tua parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas destiné à lui de le faire. L'ordre de Dieu. Saül n'avait pas droit de pouvoir offrir les sacrifices à l'Éternel. Pourquoi? C'est parce qu'il n'était pas roi pour ça. C'était le rôle du sacrificateur de pouvoir le faire. Mais souvenez-vous, Samuel était le fils spirituel d'Élie le sacrificateur, qui avait deux fils biologiques qui étaient sacrificateurs, qui ne craignaient pas Dieu. Lorsqu'un messager était venu leur ramener le message en leur disant que Dieu déchire ton sacerdoce, il avait dit qu'il garderait l'un de ses siens. Et ce sien-là, c'était Samuel qui a grandi dans la même chambre, dans la même pièce que Ophni et Phinéas, ces fameux sacrificateurs qui ne craignaient pas Dieu. Et Samuel, lui, il craignait Dieu. En fait, en Samuel, il était à son temps en train d'exercer le rôle de sacrificateur, le rôle des juges et le rôle des prophètes. C'était à lui de faire ses services. L'ordre de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Samuel était en retard. Le roi a vu que Samuel était en retard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert les sacrifices. Il a dit, mais il est en retard. En d'autres termes, c'est comme s'il disait, mais lui aussi, il exagère. C'est pas parce qu'il m'envoie un roi que ça lui est permis de pouvoir faire ce qu'il veut. Et de l'autre côté, le peuple est en train de mettre la pression sur le roi. Samuel a dit, le peuple, ils étaient impatients parce qu'ils avaient peur des Philistins. On devait offrir des sacrifices parce que toi, tu tardais pour arriver. Or, tout ce que tu fais qui n'est pas destiné à toi, même si tu le fais en temps voulu, tu t'égares. L'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu. Lorsqu'il a fait ces choses, il a désobéi à Dieu. Dieu dit, est-ce que je trouve du plaisir dans le sacrifice? Dieu est dans l'obéissance plutôt que dans le sacrifice. Le roi rejeté. Alors toute cette histoire, David le savait. Quand il était en train de chanter son psaume, il savait qu'il y a des méchants qui occupent toujours des maisons royales, si tu veux. Écoutez, les temps où David se présente devant Goliath, devant Saül, pour tuer Goliath, David était un jeune homme. Il avait à peu près 17 ans. Il était un adolescent. Et cet homme, il a vu Saül rester roi pendant 13 ans. Il était rejeté. Mais il est resté dans la royauté. Lui qui était rejeté. C'est là où on se pose des questions. Est-ce que Dieu a-t-il réellement parlé que cet homme était rejeté ou pas? L'ordre est renversé. Les fondements sont renversés. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Combien de personnes dans ces jours sentent que l'ordre est tergiversé dans leur vie et que les valeurs sont devenues des antivaleurs? Ce qu'ils possédaient autrefois, ils ne les ont plus. Et même certaines personnes commencent à les déconsidérer parce que
Ils ont perdu tout ce qui faisait leur gloire, tout ce qui était comme ornement dans leur vie. L'orgueil renversé. De l'autre côté, les gens qui ne craignent pas Dieu, apparemment, leur vie va de l'avant. Les gens se posent des questions. Le problème, c'est quoi? Se poser des questions, c'est quelque chose. Mais que feraient les justes lorsque l'orgueil est renversé, lorsque les fondements sont renversés? Qu'est-ce que les justes vont faire? C'est ça la plus grande question. Parce que qui, dans sa vie, peut rajouter un jour dans sa vie à cause de ses soucis? Mais vous remarquerez, même dans ce monde entier, beaucoup de choses sont renversées. Aujourd'hui, il y a des églises qui tolèrent aujourd'hui les mariages entre hommes, bénis par un prêtre. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous remarquerez des femmes qui sont restées seules pendant longtemps, qui sont dans la bestialité, qui ont des relations sexuelles avec les animaux, avec un chien chéri. Ce ne sont pas de nouvelles choses, ces choses existent dans la Bible. C'est la bestialité. Toutes ces choses sont bibliques et condamnables. Parce que l'ombre est renversée. Quand l'ombre est renversée, que feraient les justes? Quelle est l'attitude que les justes doivent avoir en face de toutes ces réalités, en face de ces choses? Où certaines choses sont devenues tolérables. Dans les églises, au jour d'aujourd'hui, tu peux t'habiller comme tu veux. Dans les églises, on vient comme on veut. On a des responsabilités. On est à la chorale. On fait ce qu'on veut. On chante, mais on peut aller en boîte de nuit. On peut boire. Et on espère quelque chose de la part du Seigneur. L'ordre est renversé. Que feraient les justes? Retournons dans le psaume, chapitre 11. Écoute ce que la Bible dit. Je vais lire le verset 6e et 7e. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant. C'est les calices qu'ils ont en pâturage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. En fait, c'est lui qui se lamente. Vous avez remarqué que après qu'il se lamente, il se lamente de la situation des méchants. Et il se pose une question. Il dit, maintenant que les fondements sont renversés, qu'est-ce que les justes vont faire? C'est là dans le verset 6 et 7, il donne la réponse lui-même. Cet aspect, c'est une attitude d'adoration. Il dit, je sais que les méchants n'ont pas la part au devant de Dieu. Il dit, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu. Et dans le verset 7, il dit, car l'Éternel est juste. C'est-à-dire, étant juste, il ne laissera jamais les méchants impunis. Mais c'est qui les justes? Un juste est celui qui a subi la justification. La justification, c'est le fait de rendre une personne plus juste en réalité avec l'œuvre de la croix. J'en ai défini. On parle de la justice. On dit qu'un homme est juste lorsque l'homme a subi un transfert qui s'est fait du camp où il était, les camps du diable étant pécheur, au camp de Dieu, parce qu'il a crié au Seigneur Jésus. Cette action nous permet de ne plus être comme toute autre personne. La personne devient juste à cause du sang de l'agneau, parce qu'il a été justifié. Dieu a remis ses péchés. Dieu lui a accordé la rémission de péchés. Ses péchés sont oubliés et pardonnés. Il est considéré comme juste. Et Dieu ne pardonne pas les péchés lorsqu'on commence à les citer. À 99, j'avais fait ça. À 2001, j'avais fait ça. À 2003, j'avais fait ça. Ça. Non. Les péchés sont pardonnés parce qu'on a cru au Seigneur et qu'on a réalisé que dans toute notre vie, on avait offensé Dieu et qu'on a besoin de changer de direction pour embrasser le chemin du Seigneur. On est bien juste. Juste là qui ne marche plus selon le monde, qui marche selon Dieu. Quelle est sa position face à ces choses? David nous donne la réponse dans le verset 6 et 7. C'est comme s'il voulait dire, les justes gardent l'attitude d'adoration en croyant que Dieu est juste. Et que ce qui se passe avec Saül, qui garde toujours la maison royale, qui est toujours roi, ne sera pas éternel. David chante les psaumes, il pense à ce qui se passe de notre côté. J'ai appris dans ma vie à ne pas regretter sur ce que je n'ai pas. Alors suivons maintenant l'histoire. Un jour dans la vie, il y avait une guerre en Israël. Elle s'appelle aujourd'hui 40. Et dans cette bataille, l'armée d'Israël devait s'engager. Saül était avec son fils Jonathan. Jonathan, qui était l'ami de David, qui croyait que David deviendra roi. Israël devait se ranger en bataille contre les Philistins. Mais Jonathan, en réalité, lui qui croyait à David, il devait être avec David. Il était à la fois avec David, il était à la fois avec son père. Il donnait des informations à David, mais de l'autre côté, Saül était quand même son père. Je vais soutenir quand même mon père. Pas pour qu'il tue David, mais comment il s'est retrouvé à côté de lui. Et la mort l'a surpris. La mort n'allait pas surprendre Jonathan s'il était à côté de celui qui a la vie. Parce que le problème, c'est quoi? Là où tu te mets, ça peut être un endroit où il y a la mort. Tu te ranges à côté d'une personne qui apparemment a la royauté, mais il y a la mort en lui. La Bible déclare ceci. David avait connu une femme qui s'appelle Bathsheba. Dès le chapitre 11. En réalité, par cette faute, David devait mériter la mort lui-même. Parce que il avait pris la femme de quelqu'un. C'était l'adultère. Il devait être lapidé. Bathsheba devait être lapidé. Mais comme David était la typologie de Christ et que l'onction royale coulait dans ses veines, non seulement il n'a pas été lapidé et tué, Bathsheba aussi a été épargné. Pourquoi? Bathsheba a été épargné par celui qui est à côté de lui. Je me rappelle de Moïse, lorsque Dieu voulait frapper les gens, qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse, il avait mis dans la révolte de Corée, il a dit, ceux-là qui sont pour l'éternel, rangez-vous là. Ceux-là qui ne sont pas pour l'éternel, restez de l'autre côté, parce qu'il savait que de l'autre côté, il y aura la mort. Là où tu te ranges, là où tu te mets, te permettra de pouvoir vivre ou ne pas vivre. La manière dont tu appliques la parole de Dieu dans ta vie, selon les circonstances, te permettra de garder ta vie pour demain ou de ne pas le perdre pour demain. Amen. Nous ne travaillons pas pour aujourd'hui, mais nous travaillons pour des choses à venir. Yes. Lorsque David pouvait se lamenter et que Saül était roi, David ne savait pas qu'on était en train de préparer la royauté pour lui. Parce que là où il était, dans l'endroit où il était, à Tiglath, vous remarquerez que lors de la mort du roi ainsi que de Jonathan, on lui a ramené les diadèmes et les bracelets. On lui a ramené les signes qui démontrent que ça, c'est pour le roi. Donc, nous reconnaissons que c'est toi qui deviens le roi. 1 Chronique 12, 32. La Bible déclare ceci. Le fils d'Issachar, on discernait les temps pour savoir qui ferait Israël pour couronner David roi. Ah, Israël qui était derrière Saül, qui désirait roi, devait se détacher de la maison de Saül pour s'attacher à David. Bien-aimé, les gens qui viennent te dire des choses pour les frères et sœurs de cette église, ils vont aussi dire la même chose pour toi à ces gens-là. Les gens qui te disent que « Ah, mais papa, il ne devait pas faire ça, il devait faire ça. » Ce sont les mêmes personnes aussi qui viennent t'accuser chez moi. « Ah, vous savez, mais papa, il aurait pu suspendre le maman Marie-Josée en coulisses. » Ce sont les mêmes personnes aussi qui viennent chez moi pour dire que non, maman Marie-Josée, elle fait le désordre. Et quand Jésus avait dit à Pierre, « Rien de moi, Satan, c'était en coulisses. » Paul dit à Timothée, pour remplir bien son ministère, il dit, ceux qui pêchent, reprends-les publiquement. Yes. Vous n'avez pas encore vu les publiquement. Il dit, ceux qui pêchent, reprends-les publiquement afin d'inspirer la crainte. Pas ceux qui pêchent par la foule, mais ceux-là qui ont des responsabilités.
Raison pour laquelle ceux-là qui l'ont parlé, ils ont échoué. Elle est là. Et ces gens-là ont échoué. Ils sont dans le péché. Et là, maintenant, ces gens-là doivent confesser leur péché. Parce que quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, il fallait que toi, tu sois là pour faire la leçon de morale à Pierre, à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous réalisez comment vous n'êtes pas, les gens, les chrétiens ne sont pas de la race d'Abigaïl qui peuvent sauver David? Alléluia. Dieu est derrière le Seigneur. La Bible dit là, Usa a touché l'arche. Il était mort. La Bible dit David fut irrité. David était dépassé de voir la manifestation de Dieu qui tue l'homme. L'arche qui était quelque chose qu'on utilisait pour gagner la bataille, pour que la gloire de Dieu s'explose. Cette arche-là tue quelqu'un. L'onction a plusieurs facettes. Bien-aimé le Seigneur, écoute la suite des temps. Saül rebelle devant Dieu. Il avait un fils qui croyait à David, qui croyait à la royauté de David, mais qui était tiraillé. Comme son père n'avait pas la vie, et que le contraire de la vie, c'est la mort. En Jonathan, la mort aussi le suivait. À chaque fois qu'il s'est rangé à côté de lui, il est en train de creuser sa tombe. Il est mort à côté de son père. Or, Jonathan dit à David, tu deviendras roi, et moi je serai à côté de toi. Je serai ton second. Je vais te soutenir. En d'autres termes, il lui disait, je me détacherai de mon père. Je crois en toi. Je ne crois pas en mon père. Parce qu'il est rejeté par Dieu. Je vais être avec toi. Je vais te soutenir. Mais quand David devait devenir roi, lui, il était mort. Jonathan, lorsqu'il était mort avec son père Saül, il s'est passé quelque chose. À un temps donné, quand les gens commençaient à se détacher de la maison de Saül, David était devenu roi dans la tribu de Juda. Il gérait deux tribus seulement, Benjamin et Juda. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se projette. Le fils de Saül s'est autoproclamé roi. Dans ce trouble-là, il s'est fait que Jonathan n'était plus là. Il avait un fils qui avait 5 ans. Ce fils-là, pendant qu'on fouillait avec lui, il est tombé. Il était percuté de pied. Mephibosheth. Mephibosheth, on pouvait penser à lui. À cause du bien que son père Jonathan a fait, peut-être à David, il était devenu percuté de pied. Ce qui veut dire, il ne pouvait pas occuper certains postes parce qu'il était boiteux. Et dans la loi en Israël, les gens qui avaient des défauts corporels ne pouvaient pas être dans l'assemblée des saints. Alors Mephibosheth a fini seulement par manger dans la table du roi, sans pourtant qu'on lui donne un poste administratif.
Alléluia.
Yes. Lui aussi, Mephibosheth, enveloppé par la rébellion de son grand-père Saül, oui, qui a tué son père, oui, à un moment donné, il s'est détaché de David. Hein? À un moment donné, il a manifesté le désir du pouvoir. Si. Lorsque l'ordre est renversé, que ferait le juste? Ce que le juste doit faire lorsque l'ordre est renversé lui permettra de pouvoir garder sa communion, sa relation avec Dieu. Le problème, ce n'est pas la lamentation de David, mais le problème, quelle est l'attitude que David pouvait prendre à l'égard de ses problèmes, à l'égard de cette situation. C'est ça le problème avec Dieu. Il y a des situations qui nous touchent, il y a des situations qui nous font mal. Il y a des fois, tu désires ardemment voir quelque chose, mais tu ne peux pas la voir pour l'instant. Parce que Dieu te fait traverser une certaine période. Mais si tu ne veux pas équilibrer par rapport à ta manière de voir les choses, tu vas commettre une grosse erreur. Israël se retrouve dans le désert. Dans le désert, ils étaient en train de manger la manne. Une nourriture qu'ils n'ont jamais connue. Ils étaient en Égypte, ils mangeaient ce qu'ils voulaient. Mais ils étaient des esclaves. Les années, ils ne pouvaient travailler que pour les Égyptiens. Eux pour leur roi. Dieu les sort de là. Il les fait passer par un chemin du désert qu'eux-mêmes ils ont souhaité parce qu'ils étaient incrédules. Le plan de Dieu était que la route soit normale, c'est-à-dire vous quittez, vous traversez
la mer, le désert peut nous arriver. Ils ont fait un détour, juste parce que ces gens étaient un peuple à courir. Ils ont mangé la manne. Pendant les 40 années, ils ont mangé la manne. Le plan de Dieu n'était pas qu'Israël puisse faire 40 ans dans le désert. C'était leur attitude. Mais vous allez comprendre que à chaque fois qu'Israël est en train de murmurer plutôt que de réaliser la justice de Dieu comme David, Israël tombait en désobéissance et Dieu les tuait. Il est important de savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. Mais des fois, les sujets des entretiens avec des gens, tu ne peux même pas aller loin dans la conversation. La personne te rappelle tout ce qu'il a fait de bien, tout ce qu'il est capable de faire. Comment tu peux aller loin? Comment tu peux le conseiller? Comment tu peux mettre un bagage spirituel dans sa vie? La personne essaie même de te faire comprendre. Non, cette situation qui m'arrive là, cette attitude, je l'ai juste depuis un an, je l'ai juste depuis 2 ans, je l'ai juste depuis 3 ans, je l'ai juste parce que ma situation est comme ceci, comme cela. Derrière ça, c'est un refus d'écouter les conseils. C'est un refus de pouvoir avancer. C'est un refus de pouvoir apprendre. On se donne une raison. On s'est dit non, ça ne mérite, c'est pas mon attitude. Mais je suis devenu comme ceci à cause de ça. Et directement, on est en train d'accuser des problèmes. Or, des problèmes ne sont même pas humains. Ce ne sont pas des hommes. Pourquoi les accuser? Ton ancêtre Adam a accusé sa femme, toi tu accuses tes problèmes. Ce sont tes problèmes qui t'ont rendu comme tu es. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un devant la loi qui peut entrer dans une boutique? On fait des sandwichs. La personne se dit, j'avais fait, c'est pour ça que j'ai volé. Juridiquement, il n'y a pas de raison. Bien aimé dans le Seigneur, quand les fondements sont renversés, c'est quoi les fondements? Quand l'ordre est tergiversé, quand dans ta vie, tout chamboule, quand dans ce que tu fais, tout ne marche plus en bonne et due forme, quelle doit être ton attitude? Lorsque tu réalises la justice de Dieu comme David, tu réalises que Dieu est juste et que ses sentences sont justes. Il ne favorise personne. Il fait chaque chose belle à son temps. Et il fait des choses selon ses calculs et selon la manière dont tu comprends sa volonté. Et lorsque tu commences à voir Dieu dans ces sens-là, et qu'il est bon, il est merveilleux, il n'est pas méchant envers toi, c'est là où tu es dans une attitude à comprendre les plans de Dieu. C'est par là que l'enseignement vient. Après l'adoration, l'enseignement vient. Jésus débarque devant. Il vient dans l'histoire de Lazare. Lazare était décédé. Le Seigneur a pris du temps pour arriver. Il a la sœur de Lazare. Si tu aurais été là, ma soeur n'allait pas mourir. Et donc elle accusait directement le Seigneur en disant, ah, tu as pris du temps, on mangeait avec toi. On était bien avec toi. Lorsqu'on était, tu étais chez Simon, le pharisien. J'ai cassé le parfum des grands prix. Mais voilà, si tu étais là. Si tu étais là, on t'aime bien, tu es notre ami, tu es l'ami de Lazare. On t'a dit que la sœur de Lazare était malade. Tu es retourné d'abord en Judée. Mais là, tu viens. Si tu aurais été là, Lazare n'allait pas mourir. Écoute. Et puis, le Seigneur dit, je suis la résurrection et la vie. Et là, la femme. Oh, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je sais. En d'autres termes, il est en train de dire, je sais tout ce que tu es en train de dire là. Je sais, tu nous as déjà prêché ça plusieurs fois. Je sais, change quand même l'évangile. Je sais, pour l'instant, nous avons un problème. Notre problème, c'est Lazare. Dieu te rappelle ce qu'il t'a déjà dit parce que tu n'as jamais assimilé ce que tu as entendu. Tu entends, mais tu n'assimiles pas. Tu ne mets pas en pratique ce qu'on t'apprend. Tu ne comprends pas exactement où est ton vrai problème, pourquoi les fondements sont renversés, pourquoi l'ordre est renversé.
Alléluia.
Jésus a fui, on a fui avec lui en Égypte. Dans les textes qu'on vient de lire, pourquoi? Parce que Joseph a entendu Dieu. Joseph n'a pas pris le temps de réfléchir en disant que si réellement ce fils-là que nous avons était le Messie, on n'allait pas fuir. Mais Joseph se réfère à la prophétie d'Osée qui avait prophétisé que le Seigneur devait fuir avec lui en Égypte. Est-ce que le Seigneur étant Dieu, Dieu n'était pas capable de pouvoir le faire disparaître? La Bible déclare ceci. Lot était dans sa maison. Lot qui avait choisi Sodome et Gomorre, il a abandonné. Il a fait un choix. Il a abandonné l'homme de l'alliance. Quand Abraham lui a dit choisir un autre chemin, Lot aussi pouvait dire, non, mon oncle Abraham, c'est à cause de toi que je suis devenu puissant. Je m'en vais humilier auprès de toi. Moi, je resterai avec toi. Je préfère rester avec toi, être sous tes ordres. Dis-moi, mes bergers n'auront plus de problèmes avec tes bergers. Mais l'orgueil a agi en Lot. Lot n'a pas pu comprendre les choses de cette manière. Il s'est dit, mais je pars, j'ai assez de moyens. Il a choisi la contrée de Sodome et Gomorre. Or là, il y avait l'esprit sodomique. Quand là, les anges étaient venus chez Lot, vous remarquerez qu'est-ce qui s'est passé. Les gens de Sodome sont venus pour coucher avec eux. Ce que nous voyons aujourd'hui, qu'on tolère les relations entre hommes et hommes, ça commence à Sodome, c'est un esprit sodomique. Lot est parti là-bas. En partant là-bas, qu'est-ce que la Bible déclare? Ses yeux souffraient de voir toutes ces choses-là. Il a fait un choix d'abandonner l'homme de la bénédiction. Quelque part, il se disait, je suis capable. J'ai aussi des bergers. Je suis capable. La deuxième des choses, ton vrai problème, Dieu cherche à t'amener à la vraie humilité. La vraie humilité n'est pas encore ressortie. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut venir à l'église, il fait 3 mois, Dieu commence à le visiter. Juste parce que son cœur est différent. Il ne prie pas beaucoup de minutes plus que toi. Parce que toi, tu as tellement duré dans la souffrance, tu as développé même l'art de prier pour changer ta situation. Mais tu ne développes pas l'art de prier pour devenir une bonne servante ou un bon serviteur. Et quelqu'un peut venir après, il est visité plus que toi. Troisièmement, ça peut être un problème d'appel. Tu traverses des moments difficiles parce que ton appel est grand et que derrière toi, il y a un grand témoignage. Alors Dieu permet que tu traverses un temps dur. Et donc, les personnes peuvent venir aussi. Son témoignage n'est peut-être pas énorme, mais Dieu le visite. Dieu est souverain. Amen. Bien-aimé. C'est grave de voir l'ordre changer. Donc, vous pouvez dire, ah, Abraham, mon oncle, mes bergers se prennent la tête avec tes bergers. Tu dis qu'on se sépare. Je crois peut-être que l'autre a concerté ses bergers. Vous lui avez posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et le responsable de ses bergers lui a dit, non, on m'a dit d'ailleurs qu'Abraham parle du mal de toi. J'ai appris à ne pas tenir compte à tout ce que les gens disent. Mais le perdant, c'était l'autre. Comment Lot a perdu? Lot, en faisant ses choix, Lot a pu perdre même sa femme dans la suite des temps. Sauvé lui-même par Abraham, il a perdu même sa femme. Et en perdant sa femme, il s'est retrouvé avec ses filles. Ses filles l'ont fait boire. Juste parce qu'un jour, il a pris une mauvaise décision dans sa vie. Il s'est saoulé. Il a eu des relations sexuelles avec ses filles. Il y a eu une sieste où les Moabites sont sortis par cette relation. Et les Moabites barrèrent la route à Israël. Ils s'opposèrent à Abraham, aux descendants d'Abraham, comme leur ancêtre Lot, qui s'est opposé à Abraham. Lorsqu'Abraham lui a dit qu'on se sépare, il devait se mettre à genoux pour dire, Père Abraham, on ne peut pas se séparer. Je sais que tu as rencontré Dieu. Je suis Lot par toi. Je suis devenu ce que je suis par toi. Bien-aimé, Lot était devenu Moab. Un grand peuple, mais Lot n'est pas Abraham.
Non. Excellent.
Aaron pouvait expliquer distinctement, parler correctement ce que Moïse pouvait parler en bégayant. Mais Aaron n'était pas Moïse. Lorsqu'on lui a laissé seul, Il a fait les veaux d'or. Il y a d'autres personnes, ils ne sauront pas rester seuls. Leur onction ne va agir que lorsqu'ils sont avec Moïse. Si Moïse n'est pas là, ils tomberont, ils vont avoir la pression. Saül, quand il est resté seul, il a reçu la pression du peuple. Il a offert les sacrifices qui n'étaient pas destinés à lui. Il est tombé dans la désobéissance. Mais si Samuel était avec lui, s'il avait entendu Samuel, il n'allait pas tomber dans la désobéissance. Bien que David pouvait être choisi dans le plan de Dieu, il allait quand même faire son temps dans sa royauté. Le problème, c'est quoi? Nous devons déjà faire la distinction. Pourquoi l'ordre est tergiversé? Deuxièmement, pendant que l'ordre est tergiversé, toi, tu dois te positionner, savoir tu es qui. La reconnaissance de ta vraie identité te permettra de pouvoir savoir tu es qui.
Amen. Amen.
Excellent.
Écoutez-moi, l'Église.
Amen.
Je vous dis, alléluia, si tu as des projets, tu veux entreprendre, n'en parle pas.
Alléluia.
Ne le dis à personne ici. Nous prions pour l'amour, mais j'aime que ce genre de choses soient confidentielles. Parce que quelqu'un mettra ton projet en place avant toi. Il y a des gens qui attendent, le lendemain, ils mettent en pratique. Ça ne sera pas mon problème. Gardez vos projets. Un homme mature n'explique pas son songe précipitamment. Pour Joseph, ce n'était pas condamnable parce qu'il était un enfant. Il avait besoin d'explications. Toi, tu n'es pas un enfant. Quand tu seras vendu en Égypte, toi, tu ne deviendras pas premier ministre. Mais toi, ta vente en Égypte, ça sera à cause de la faute que tu as pu commettre. Parce que tu as été averti par la prédication et par ton père.
Alléluia.
Confiance n'exclut pas les contrôles. Et vous devez comprendre que ce n'est pas parce qu'on aime, on doit tout dire. Il y a un homme qui s'appelait Samson. Il avait tout ce qu'il faut. Il a rencontré une femme qui s'appelle Delila. Il y a des femmes qu'il ne faut pas rencontrer dans la vie. Il y a des hommes qu'il ne faut pas rencontrer dans la vie. Il y a des amis qu'il ne faut pas rencontrer dans la vie. Si tu es un homme prudent, tu peux comprendre Delila juste le deuxième jour quand tu es avec elle. Mais si tu n'as pas le discernement, tu peux rester avec Delila longtemps. Il te détruira jusqu'au point où on te mettra en prison, on va te crever les yeux, on te coupera les cheveux et tu vas perdre ta force, toi Samson. Tu as l'alliance où tu dois garder tes cheveux. Les cheveux, c'est l'ornement. Lorsque nous voyons la femme, lorsque nous voyons le cheveu de la femme, ça fait partie de sa beauté. Toi, Église, tu es une femme. Lorsque on te coupe les cheveux, ta force est finie. Alors tu as des choses que tu dois protéger. Tu as des choses que tu dois garder. Comment tu dois savoir? Comment tu dois garder les choses? Premièrement, quand tu parles, ne monopolise pas la parole dans la conversation. Pendant 10 minutes, tu vas te retrouver, tu as dit les choses de ta vie à quelqu'un qu'il ne fallait pas dire. Parce que tu as monopolisé la parole. Tu peux avoir les compétences. L'intelligence et les compétences que tu as ne feront jamais de toi la personne qu'il faut. Mais la sagesse va au-delà des compétences. Tu peux être compétent. Quand je parle des compétences, les compétences, ce sont des capacités que tu as acquises avec excellence dans une école quelconque qui ont fait de toi une personne peut-être remarquable parce que tu peux prouver aussi des diplômes et tu peux prouver ce que tu connais par A plus B. Mon délai de ça, c'est une bonne chose. Tu as besoin du discernement et tu as besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu t'amènera à ne pas dire certaines choses. Dieu appelle Moïse. Il lui dit, tu vas délivrer mon peuple qui est en esclavage. Dieu ne lui dit pas qu'il y aura les déserts. Dieu ne lui dit pas qu'il y aura les tabernacles. Dieu ne lui dit pas qu'il y aura la loi. Dieu a caché tout ça. Il a laissé ça comme un mystère. Afin que le Dieu puissant soit le Dieu des découvertes. C'est pour cela que le tabernacle avait un mur qui mesurait 2,50 m parce que nous les humains, nous n'avons jamais plus de 2 mètres. Pour que lorsque nous voulons entrer dans le tabernacle pour voir Dieu, il faut que nous puissions aller au-delà des murs pour voir. Ou soit nous devons entrer dans la porte passer par le parvis, le lieu saint et les lieux très saints. Parce que Dieu se révèle comme une manne cachée. Alors si Dieu se cache, pourquoi toi tu ne te caches pas? Pourquoi toi tu ne caches pas tes projets? À ton pasteur, tu ne dis pas ton projet, mais à d'autres personnes, tu dis ton projet. Tes projets, raison pour laquelle, depuis que tu as commencé tes projets jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est réalisé. Parce que pendant que tu parles, tes projets sont pollués. Dieu forme une génération de gens qui veulent propulser vers le haut. Des personnes qui ont connu les échecs dans le passé. Des personnes qui se sont trompées dans le passé. Ils se sont trompés afin que Dieu puisse leur faire écouter cet évangile pour qu'ils acquérissent l'intelligence de Dieu. Et avec, my God, avec l'intelligence de Dieu, ils ne feront plus les erreurs. Comment reconnaître quelqu'un qui veut remettre de l'ordre? Celui qui veut remettre de l'ordre, la première des choses qui lui arrivera, les combats. La deuxième chose qui lui arrivera, le manque de confiance. Le diable qui reprendra toutes tes erreurs, il va te mettre ça devant. Quand tu vas regarder tes erreurs, les erreurs que tu as pu connaître, comment j'étais avec tel homme, comment j'étais avec telle personne, comment je fais les alliances avec telle personne, telle femme, telle personne, pourquoi je fais confiance avec elle? Le diable venait de te faire comprendre que tu es inutile. Amen. Tu ne pourras pas réussir. Je voulais parler d'un Dieu de ré. Il recommence toutes choses. Il rebâtit, il recommence, il refait, il fait des choses nouvelles. Il n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il dit, il accomplit. Le problème est que tu réalises maintenant, tu es avec lui, tu n'es plus seul, tu ne combats plus seul. Celui qui est avec toi, il s'appelle Jésus. Celui qui est avec toi est ta force. Ta force, c'est Dieu. Ta force ne dépend pas des hommes. Même si tu as échoué dans le passé, tu peux repartir à zéro. N'aie pas peur, parce que si tu trembles, Dieu va te faire trembler. Ah, my God! Il y a des gens qui ont peur de se remarier. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus. Parce qu'ils ont été déçus. Non! Pourquoi prendre le passé, porter ça au dos? Pourquoi? Pourquoi ton passé te rattrape? Pourquoi tu rappelles au nouveau fiancé des choses que tu as vécues dans l'ancien mariage? My God, si je parle à quelqu'un, je me l'entends dire à quelqu'un. Quand tu sors d'une situation difficile ou de divorce, aussitôt la personne qui voudra t'épouser tout de suite, là là là, my God, il faut peut-être faire attention. Alléluia.
Amen.
L'ordre est renversé. L'ordre est... Écoutez-moi. Dans le monde entier, Dieu, lorsqu'il veut amener les relèvements, il rétablit son ordre. Quand il rétablit son ordre, l'ordre de Dieu passe par certains signes, par certains événements et par certains personnages. C'est pour cela au jour d'aujourd'hui, vous avez vu Obama président avec un sang noir en lui. Ça a un signe sur le plan spirituel. Je ne mets pas sa vraie identité. Je m'en fous de ça. Je voulais seulement dire que tout pouvoir vient de Dieu et certaines personnes marquent un signe. Des gens comme les Mandela sont des signes. Des gens comme le président Mobutu au Congo. Vers les années 89, on a pris le nom de Mobutu. On a mis ça dans les dictionnaires. Mobutu, on l'a appelé roi du Congo pendant que le Congo était Zaïre, était une république, mais pas un royaume. On l'appelle roi d'Isaïe. On l'a appelé roi d'Isaïe parce que Mobutu était un signe du jugement qui avait commencé pour la nation congolaise parce que les gens ne voulaient pas donner leur cœur pour des vrais. Et quand le jugement commence, Dieu perpétue son jugement. Et Kabila est venu, il a continué seulement le jugement. En réalité, Kabila est le père. Celui qui était venu prendre le pouvoir, il n'était pas venu pour rester. Lui, il était venu parce que son fils va jouer un détour pour prendre sa place. Et c'est son fils qui devait continuer le travail du jugement de Dieu qui avait commencé par Mobutu. Et comme le Congo, c'est une nation traversée par le mer, et c'est la troisième nation la plus grande de l'Afrique, le chiffre 3, c'est le chiffre d'accomplissement. Le problème a commencé au Congo avec Mobutu. Et Mobutu a influencé tous les présidents africains. Les présidents africains, ils ont commencé à adopter le comportement de Mobutu. Et c'est pour laquelle maintenant vous voyez en Togo, au Côte d'Ivoire, Et quand nous sommes venus en Europe, en réalité, il y avait un travail qui avait commencé, que Daniel avait prophétisé dans Daniel au chapitre 2, que Rome sera le quatrième royaume qui va prendre le pouvoir pour essayer de dominer le monde entier. Or, Rome, c'est une préfiguration. Parce que vous remarquerez que Rome a commencé le travail en ce temps de la fin. Nous voyons même la maison de l'Union européenne, c'est à Strasbourg. Cette maison est construite comme la tour de Babel. Et en haut, ce n'est pas achevé parce que la tour de Babel n'était pas achevée. C'est Dieu qui avait perturbé cela. Parce que la France, c'est la nation qui prépare la venue de l'Antichrist. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme la France, c'est la nation qui prépare la venue de l'Antichrist, l'Antichrist va opérer pour retenir des personnes qui sont incrédules. La première option qui amène l'incrédulité, c'est le dieu de Mammon. C'est Mammon, le dieu des richesses. Et le dieu des richesses, son siège, c'est au Luxembourg, parce que c'est un paradis fiscal où plus de 80% des Français riches ont leur richesse ici. Ils vont préparer la venue de l'Antichrist et ça se fait au Luxembourg. Parce que c'est un pays où les allocations sont élevées. Les salaires sont élevés. Écoutez, je vous explique. Jésus devait être mis à mort quand il était bébé par Hérode. Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible dit, Dieu mettra l'inimitié entre le diable et la postérité de la femme. En d'autres termes, il y aura toujours un problème entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. On parle de Satan, mais on voit ces héros qui se manifestent, un homme se manifeste. Ce qui veut dire que derrière la Rome, il y a la France, il y a le Luxembourg. Derrière Rome, il y a les États-Unis, il y a le Luxembourg. C'est pour ça que vous remarquerez aux États-Unis, là où on parle beaucoup de Dieu, là où le réveil a commencé en Angleterre. Mais ce sont les Américains qui ont perfectionné ces réveils. Les Américains ont été conduits par les Anglais. Écoute, je vous explique un truc. Le pays où, apparemment, il y a un grand réveil, c'est dans cette nation-là où les gens travaillent beaucoup pour gagner beaucoup d'argent et dans la semaine ne viennent pas au culte. Et dans ces pays-là, les plus puissants au monde, le SMIC est plus bas qu'en France. Là où il y a les réveils, mais il y a une puissance de la servitude envers soi-même. Je vais travailler beaucoup pour gagner plus. Je ne viendrai pas dans la semaine au culte. Je viendrai le dimanche au culte. Mais je serai fatigué parce que je travaille beaucoup. Il y a des gens qui font 75 heures par semaine. Que celui qui m'a entendu ce soir fasse attention. L'ordre. Quand l'ordre est renversé, que ferait le juste? Frère, nous sommes dans un mouvement bizarre. Où tout le monde, des pasteurs dans des affiches, ils ont des titres. Tu verras pasteur un tel en bas, char de feu. Garde ça dans ton église et dans ta maison. Ne nous mets pas ça. Tu verras jamais prophète exaucé aigle royal dans une affiche. Jamais je le mettrai. Garde ça dans ta maison, garde ça dans ton église, avec le peuple que Dieu t'a donné. Ne l'expose pas. C'est quoi? Et c'est grave! À telle enceinte que dans les églises, il y a des aveugles. Où tu verras vraiment un pasteur déréglé et aventurier. Mais les gens sont en train de venir. Où tu vois un Saül rejeté déjà. Mais il est toujours roi. Que celui qui m'écoute ce soir fasse attention. Tu n'es plus seul. Tu es avec Dieu. Tu as seulement un problème de beaucoup écouter. Quand tu écouteras beaucoup, comme la foi vient de ce qu'on entend, tu mettras en pratique. Et quand tu mettras en pratique, il y aura un mariage entre ton intelligence et le discernement. Le discernement produira la sagesse en toi. Et la sagesse, c'est le fruit de la parole. Et la parole, c'est la personne de Dieu qui habite en toi. Et Dieu
est le donneur de toutes choses. Ne parle pas trop vite. Réfléchis avant de parler. N'agis pas vite. Ne sois pas colérique. Ne réponds pas précipitamment aux questions. Tu peux te tromper. Que Dieu vous bénisse. Amen.